L'an dernier, je vous avais parlé, le 9 octobre, des bienheureux martyrs des Asturies, les frères des écoles chrétiennes qui ont été martyrisés dans les années 30 en Espagne. J'avais consacré toute l'émission à ces frères remarquables. Aujourd'hui donc, Abraham, et je m'inspire de très près d'un texte d'André Frossard. Abraham, c'était vraiment l'ami de Dieu. C'est le premier homme à contracter cette alliance avec Dieu, cette grande alliance, qui sera renouvelée avec le peuple descendant d'Abraham. C'est un personnage absolument incommensurable, Abraham. Il suffit de savoir que l'Évangile n'hésite pas à parler du sein d'Abraham pour désigner le séjour des bienheureux, le paradis, le sein d'Abraham. C'est dans l'Évangile. Étrange, étonnant. D'ailleurs, il en est question aussi dans le Magnificat. Il en est question à la fin du Magnificat, de ce chant de la Vierge. Il en est aussi question dans le premier canon de la messe, où il est dit, « Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le Juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. » Pour ceux qui ont oublié le texte du Magnificat, du Cantique de Marie, ça se termine, n'est-ce pas? Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, et se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Quelle est cette promesse? On va voir. Abraham est né il y a près de 4000 ans. D'ailleurs, on s'entend pas toujours à ce sujet de cette date. Certains historiens croient qu'il est plutôt... ce serait plutôt 1950 ans avant Jésus-Christ. D'autres disent 1750 avant Jésus-Christ. Peu importe. Abraham a vécu longtemps dans une région du globe que la guerre du Golfe nous a rendu familière. C'est une ville du cours inférieur de l'Euphrate. On parle souvent de l'Euphrate dans les recherches qu'on faisait autrefois. J'ai même des cartes très anciennes qui nous montrent que l'Euphrate baigne le paradis. Le paradis terrestre, oui. L'Euphrate que la Bible appelle, cette ville du cours inférieur de l'Euphrate, Ur des Chaldéens. Vous savez qu'on parle encore des Chaldéens aujourd'hui. Les Chaldéens, ce sont en partie des catholiques unis à notre Église latine, donc unis au pape, qui vivent en Irak. Et je connais ici à Montréal des Chaldéens catholiques profondément attachés à leur foi, eux qui viennent d'Irak, oui. D'ailleurs, l'un d'entre eux était ministre des Affaires étrangères de l'Irak durant la guerre du Golfe. Que les historiens pensent aujourd'hui que l'arrivée des Chaldéens a été beaucoup plus tardive, alors on ne peut pas s'entendre là-dessus, peu importe. Sur les débuts du patriarche Abraham, la Bible est plutôt silencieuse. Elle nous dit qu'il était l'un des fils de Térah. Oh, on dit Térah aussi, Térah. Donc le père d'Abraham s'appelait Térah, c'est de la lignée de Sem, fils aîné de Noé, par Héber, ancêtre des Hébreux. Héber, H-E-B-E-R. Mais c'est pas l'origine du nom de notre premier agriculteur, Héber, qui cultivait les plaines d'Abraham, et dont je descends d'ailleurs, je le compte parmi mes ancêtres. Non, ça n'a rien à voir. Et on sait qu'avec ses frères, il servait d'autres dieux, donc il appartenait à tous ces peuples païens, idolâtres, fort nombreux dans le pays et d'ailleurs dans le monde entier, parmi lesquels le dieu Lune était particulièrement apprécié. On sait aussi, d'après le livre de la Genèse, c'est toujours au début de la Bible, ce qu'il avait épousé l'éblouissante et très belle Sarah, dont le nom signifie princesse, et qui sera toute sa vie l'objet de convoitise pour les rois, les gens importants, et leur infériorité sociale confinait les autres personnes dans l'ébahissement seulement. Ils n'osaient pas l'approcher de crainte de déplaire au roi. Ça faisait naître beaucoup de frustration chez beaucoup d'hommes remplis de désirs. Toute la tribu qui entoure Terah, le père d'Abraham, va émigrer d'Ur en Chaldée. Ur, c'est O-U-R ou bien U-R. Un nom qu'on voit toujours dans les mots croisés, ceux qui font des mots croisés. Alors donc, Terah mène toute cette tribu vers Haran. C'est le rendez-vous des caravaniers du nord de la Mésopotamie. C'est là que va commencer toute cette aventure absolument invraisemblable du peuple juif. Vous savez que c'est une aventure, on s'étonne pas assez de cette aventure invraisemblable du peuple juif. Beaucoup de gens prennent ça comme une chose très ordinaire, mais c'est pas du tout ordinaire. Le peuple juif, c'est un peuple, comme disait quelqu'un qui a un peu l'esprit scientifique, insoluble dans l'histoire, n'est-ce pas? Il se dissout pas, il disparaît pas. Ça se poursuit toujours encore aujourd'hui sous nos yeux. On est étonné malgré nous. Hein? Pensons aux persécutions, les dispersions, les exils, les massacres, les tentatives d'extermination qui ont commencé longtemps avant la venue du christianisme. Hein? Pensez aux exils à Babylone, l'esclavage en Égypte. C'est un peuple qui a été constamment poursuivi, martyrisé et qui ne s'est jamais vraiment totalement assimilé. C'est une histoire qui commence de la façon d'ailleurs la plus surprenante qui soit. La Bible fait surgir brusquement dans la vie d'Abraham nul autre que Dieu lui-même, qui ne pouvait être pour lui qu'un Dieu inconnu, il était idolâtre. Un Dieu qui parle à son esprit, puis auquel il accorde instantanément sa foi. Abraham est gratifié par Dieu, par l'Esprit Saint, d'un don immédiat. Il croit. Et tous ceux qui ont une connaissance expérimentale du divin, vous qui m'écoutez, qui savez que Dieu existe, vous l'avez expérimenté par une science spéciale ou par quelque raison qui vous échappe. Nous le savons. Des fois, nous éclatons en sanglots tellement. C'est une grâce fantastique, c'est un don incroyable. Et dans une expérience de cet ordre, le doute que nous pourrions avoir sur la personne de Dieu est impossible, car c'est très précisément à son image, dans l'homme, dans la femme, que Dieu s'adresse. Et aussi bien, Abraham ne doute pas, il doutera jamais, il va obéir sur le champ à la voix qui va lui dire, quoi? Quitte ton pays. C'est la démarche de tout chrétien, de tout croyant. Quitte ton pays, c'est-à-dire quitte tes aises. Quitte, du moins dans ton cœur, ce qui t'appartient. Ne t'y attache pas. Quitte ton peuple. Quitte ta maison, la maison de ton père, pour le pays que je te montrerai. Et ce pays, les Juifs croient bien que c'est la terre d'Israël, mais nous savons que c'est ce monde intérieur où Dieu nous habite. Et Dieu lui dit, je ferai de toi un grand peuple, j'exalterai ton nom, je te bénirai et ton nom bénira. Et la Bible nous dit qu'il avait 75 ans lorsqu'il a entendu cet appel. Et à ceux qui pourraient s'étonner, on fera remarquer que la mesure de l'existence humaine, on comptait pas les années de la même façon qu'aujourd'hui. C'était pas la même mesure. À moins que les règles de l'état civil n'aient été observées que bien distraitement par des spécialistes. De toute façon, on dit que Terah, son père, va vivre officiellement jusqu'à 205 ans, puis Abraham jusqu'à 175 ans. Bon, nous reviendrons plus tard là-dessus. Laissons-les vivre très vieux, et nous contentons-nous de mourir plutôt jeunes comparés à eux. Qu'Abraham ait été relativement jeune, ou déjà d'âge mûr, on sait qu'il était de toute façon accompagné de son neveu Lot, Eloti. Et puis, tous deux partent sans délai. Ils écoutent la parole de Dieu. Il est un exemple pour nous tous dans ce voyage intérieur que nous devons faire, sous les ordres de Dieu, d'aller vers le monde, je dirais, des vertus, le monde du détachement, le monde de la joie profonde et de la sérénité que donne, en particulier, la réception pour nous, chrétiens, de l'Eucharistie, qui nous amène dans ce monde, dans ce pays merveilleux, le pays de la vraie foi. Et alors, ils partent tous les deux, et part avec sa femme, aussi. Les gens à son service, et aussi tous les biens qu'ils avaient amassés à Haran, probablement une armée de moutons, des ânes, puis aussi ces espèces d'habitations légères que les récits bibliques ne mettent jamais de mentionner. C'est quoi ces habitations? Évidemment, ce sont les tentes, qui symbolisent à la fois la condition errante du pasteur et de l'apôtre, et, comme le dit avec toujours son humour André Frossard, le peu de goût du Seigneur pour l'immobilier. Alors, il laisse derrière lui tous les dieux, les faux dieux de la Mésopotamie. Abraham se dirige vers l'ouest, vers ce pays de Canaan, où il apprend par Dieu que cette terre sera donnée à sa postérité et non pas à lui-même, qui va mener pendant de longues années l'existence du nomade. Il va aller de plaine en montagne jusqu'au Négev, où il n'y a rien. Et là, chassé par la famine, il va passer en Égypte. Mais avant de mettre le pied dans ce pays fort civilisé à l'époque, pensez, moi j'ai ici un masque égyptien qui date justement de 4000 ans, de l'époque d'Abraham, et c'est magnifique, c'est très beau, très très beau. On m'avait offert ça en Égypte, parce que j'étais croyant comme les musulmans, pas musulmans, mais croyant comme les musulmans. Quelle générosité de la part de ces antiquaires du Caire. Alors donc, il est chassé par la famine, en Égypte, et puis, il est un peu inquiet au sujet de sa femme. Il dit à sa femme, qui est très belle, « Oui, oui, tu es belle, ma Sarah. Les Égyptiens vont me tuer pour disposer de toi. Alors dis-leur donc, je t'en prie, que tu es ma sœur. » Un petit mensonge blanc, comme on dit. C'est un demi-mensonge. Car Sarah était bien sa demi-sœur. Ben oui, c'était sa demi-sœur par une des femmes de son père. Alors, justement après leur arrivée, ben les officiers de Pharaon, manquent pas de remarquer la cette belle femme, dont la démarche leur donne bien des idées. Alors ils s'emparent d'elle pour l'offrir à leur maître Pharaon. Mais la livraison va coïncider avec une telle série de catastrophes, des catastrophes domestiques, des catastrophes nationales, que Pharaon finit par se poser des questions sur cette étrangère qui lui attire des malheurs. Et il apprend qu'elle n'est pas la sœur, mais bien la femme d'Abraham. Et comme il faut croire que les Égyptiens avaient alors des idées fort précises sur le caractère sacré du mariage, ce que nous avons perdu ici, semble-t-il, dans une grande partie de notre population, eh bien Sarah est renvoyée à son mari, Abraham, avec une grande quantité de petits et de gros bétail, des ânes, des ânesses, des chameaux, des servantes et des esclaves, qui, peut-être pour être de moins de valeur à leurs yeux, n'en ont pas moins leur utilité. Tous ces cadeaux sont destinés à quoi? Ben, à compenser, dans l'idée du pharaon, le préjudice qui était causé à la morale du mariage. On ignore d'ailleurs jusqu'à quel point cette morale avait été offensée. On sait par l'exemple d'Esther dans la Bible que l'aménagement et la décoration d'une future épouse royale demandait des mois de préparatifs à tout un ensemble de coiffeuses, de baigneuses, de parfumeuses, de masseuses, de couturières, des bijoutiers, des professeurs de maintien et d'autres experts en protocole. Alors on peut imaginer que Sarah avait été entourée de tout ce monde-là pendant un certain temps avant d'être reconduite. Alors lui-même, Abraham, est reconduit à la frontière de l'Égypte avec son épouse et son neveu Lot et toutes ses richesses. Abraham va traverser le Négev. toujours vide de ressources, le Négev. Et il va monter jusqu'à Bethel, dans les parages de la mer Morte. Êtes-vous déjà allé à la mer Morte? C'est étrange, étrange. C'est cette mer dans laquelle on ne peut pas se noyer, on flotte sur la mer Morte, tant il y a de sel. Et là, il constate avec Lot que l'étendue de leurs troupeaux ne leur permet plus de vivre sur le même territoire. Bon, ils ont trop de troupeaux, Abraham et Lot, il faut qu'ils se séparent. Alors l'un devra prendre à gauche, l'autre à droite, et des hauteurs de Bethel, ben Lot, à qui son oncle a laissé le choix, découvre à l'est la plaine souriante du Jourdain, qui lui fait l'effet du jardin d'Éden, le jardin dont je vous parlais tout à l'heure, le paradis terrestre. Et il n'hésite pas. Lot choisit donc le paradis terrestre, où ne l'attendent, on pourrait dire traditionnellement, que des mésaventures, des calamités mêlées à de rares petites douceurs. C'est pas le même où, mais du côté de Sodome. Mais il est pris dans un tourbillon de petits rois, des roitelets prédateurs qui se font la guerre. Puis il est capturé avec les siens. Abraham, lui, s'est sagement établi au lieu dit le chêne de Mambré. La plupart de vous connaissez ça, hein, le chêne de Mambré. On lit ça dans la messe, cette histoire du chêne de Mambré. Mambré, c'est où? Ça, c'est à Hébron, dont on parle tellement. Hébron, cette ville palestinienne actuellement, où les Palestiniens, très nombreux, sont gardés par les rares Israéliens, mais avec des armes. Ils sont internés chez eux de 9h du matin à 6h le lendemain matin. Ils ne peuvent pas sortir actuellement. C'est terrible. Ils ne sortent que de 6h du matin à 9h, 3h, pour faire tout leur commerce, leurs affaires, et leurs occupations et leurs visites. Et si des enfants même sont trouvés à 9h05 dehors, ils sont renvoyés chez eux. C'est terrible ce qui se passe à Hébron actuellement et en Israël. Que c'est terrible tout ce qui se passe là-bas actuellement. Et alors, sous le chêne de Mambré à Hébron, Abraham érige aussitôt un autel à Yahvé, ce Dieu qui l'a choisi. Il apprend les malheurs de son neveu, et comme il est déjà une sorte de puissance, il arme son personnel pour aller à la chasse au roi clé. Il les bat, il délivre son neveu Lot, qui retourne à Sodome, tandis qu'il reçoit lui-même, Abraham, l'étrange visite de Melchisédek, dont il était question tout à l'heure dans le canon de la messe, là. C'est le canon numéro 1 qu'on récite très rarement. Hein. C'est modelé sur l'ancien canon de Pie V. Hein. Et alors, de Melchisédek, c'est le roi prêtre de Salem. Salem, ça peut être Jérusalem aussi, Jérusalem. Hein. De toute façon, il est porteur d'une offrande d'humble apparence. Quoi? Il apporte du pain et du vin. Et tous les commentateurs chrétiens, évidemment, depuis les pères de l'Église les plus anciens, ont vu toujours dans cela une figure lointaine de l'Eucharistie, car Melchisédek est lui-même, pour certains d'entre eux, comme une apparition discrète du Messie. D'ailleurs, vous avez pu voir à la télévision lundi, lors des funérailles de l'ex-premier ministre Robert Bourassa, cet autel magnifique de l'église Notre-Dame, et on voit justement Melchisédek à un autel avec du pain et du vin. Bien oui, il est là. Remarquez bien. Alors on ne sait ce que ce Melchisédek a été exactement pour Abraham. Mais il faut croire que l'impression était considérable. Dès ce jour, Abraham va verser la dîme de tout à ce roi pacifique et mystérieux. Or lorsque Lot revient loger imprudemment sous ses murs, l'attrayante et répugnante Sodome est déjà condamnée, en dépit de tous les efforts d'Abraham. Abraham cherche par tous les moyens à obtenir la grâce de Sodome et de Gomorre. Au cours d'un étrange marchandage avec Dieu, il propose au Seigneur Dieu d'épargner la ville. Si l'on découvre dans ces villes, tout d'abord 50 justes, que Dieu juge de la terre, ne pourrait quand même pas faire périr avec les autres qui sont des mécréants. Puis finalement, il descend le chiffre à 45, et c'est ici que le patriarche Abraham révèle son génie de la négociation. On dit que souvent les Juifs sont de bons négociateurs. Eh bien voilà, car pour obtenir que le prix du salut des justes tombe de 50 à 45 juste, il renverse complètement les données du problème en faisant observer à Dieu avec toutes sortes de précautions respectueuses puis de précautions oratoires que sa justice, Dieu, ne peut tout simplement pas frapper toute la ville si Saint-Just seulement venait à manquer sur le décompte. Alors Dieu dit non, je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas. Et on verra qu'il a, pour ainsi dire, presque sauvé Sodome et Gomorrhe. Mais il trouvera pas les justes. Il ne les trouvera pas.
Abraham, c'est le père des croyants, est fêté aujourd'hui, c'est sa fête. Saint Abraham, comme on l'appelle dans la tradition chrétienne. Alors il a eu une manière très très sympathique, cet Abraham, de discuter avec Dieu. Ça permet donc à Dieu d'aller à réduire le nombre de justes là, exigible à 10, puis il est impossible de trouver ça. Et la punition va s'abattre. Donc, sur la cité dont le péché est trop horrible. C'est une conception de Dieu, comme on voit, qui est un peu contraire à celle qui nous est enseignée vraiment dans le Nouveau Testament. Donc, la punition va s'abattre. Et par égard pour Abraham, Dieu envoie deux anges à Lot pour l'avertir que le châtiment approche. Mais à peine ces anges-là sont-ils arrivés, sont de beaux anges, que les habitants de Sodome assiègent la maison, car ils veulent soumettre ces nouveaux venus, ces beaux anges, à l'usage qui a fait des sodomites une réputation plutôt durable à travers les âges jusqu'à aujourd'hui. Je ne m'étends pas davantage sur la question, comprenne qui pourra. Et Lot, évidemment, veut détourner les sodomites de leurs obsessions à l'égard des anges. Il leur offre, imaginez, ces deux filles en otage. Mais les sodomites, ça les intéresse absolument pas. Des filles, ça les intéresse pas. Ce sont des hommes qu'ils veulent. Ce sont les messagers, les anges qu'ils veulent. Mais les messagers, finalement, sont des anges intelligents, évidemment, leur brouille si bien la vue. Ben oui, ils abîment leur vue, et les sodomites deviennent incapables subitement de reconnaître un mur d'une porte, ils finissent par rentrer chez eux à tâtons. Et voilà. Alors, pressés par les anges, par ses hôtes, de quitter une ville qu'ils vont rayer de la surface de la terre, parce que c'est eux les messagers qui vont jeter le feu sur la ville, et ils vont rayer la ville dès le lendemain matin. Alors Lot prévient ses futurs gendres, qui croient, eux, à une lubie. Ils ne veulent pas croire ça. Alors Lot s'éloigne avec sa femme et ses filles, il laisse ses gendres là. Il traverse la plaine pour gagner la montagne. La Genèse dit en toute hâte et sans un regard en arrière. On leur a demandé de ne pas se retourner. Ça leur a été recommandé. Mais sa femme, à Lot, qui est bien curieuse, elle ne résiste pas à la tentation de contempler le feu qui enveloppe Sodome et Gomorre, et les deux autres cités aussi qui sont incluses dans la radiation, comme si c'était une bombe nucléaire. Alors sa femme s'arrête, se retourne, puis elle voit le feu du ciel à l'œuvre, et elle est aussitôt changée en statue de sel. Bah. Ça peut être une manière de nous faire entendre qu'elle est pétrifiée par l'effroi et vitrifiée par l'explosion. C'est ce qu'imagine intelligemment André Frossard. Arrivé sur la montagne, Lot se réfugie dans une grotte. C'est ici que se situe un épisode qui a inspiré plus de peintres que de moralistes et qui va nous donner l'occasion d'apprécier l'étonnante objectivité de la ville. C'est une scène étrange, un peu pénible. Les filles de Lot, dont les fiancés, on le sait, ont été pris dans la rafle des villes condamnées, ils n'ont pas voulu, ils croyaient que c'était une lubie. Bien, les filles s'imaginent que la race des époux a disparu avec leurs fiancés. Alors, elles s'emploient durant deux nuits. J'hésite à parler de ça, mais enfin, c'est comme ça, c'est dans la Bible. Elles s'emploient durant deux nuits à assurer une descendance à leur père après lui avoir fait boire du vin au point de lui ôter toute conscience de ses actes. Étrange, hein? La Bible pourtant réprouve catégoriquement l'inceste, aussi sévèrement que le vice de Sodome et des Sodomites. Mais ici, elle raconte, la Bible. Elle ne commente pas. Elle se soumet aux faits, elle les relate, les faits. Elle les a sortis d'aucune façon, la Bible. Comme le dit si bien André Frossard, c'est le livre de la vie telle qu'elle est. Mais comprenne qui pourra, c'est pas facile. Alors, c'est ce qui rend d'ailleurs la négation ou la récusation difficile de ce texte qui nous rapporte ça. Parce que on voit bien que il y a là des personnages que nous ne rencontrons plus depuis quelque temps dans cette Bible, des anges. C'est peut-être plus les reconnaître, peut-être que nous sommes entourés d'anges qui nous aident. Moi, je pense qu'il y a des anges qui nous aident. J'ai cru savoir à un certain moment que c'était le cas. Et il y a des événements aussi inhabituels qui se produisent dans ce récit de la Genèse. Il y a des apparitions qui sont, semble-t-il, devenues si rares que l'on a même pris le parti, chez beaucoup de chrétiens même, de les nier quand on leur attribue pas ces apparitions des causes plus ou moins pathologiques, en contradiction parfaite avec pourtant le bel équilibre dont font preuve les voyants, les bénéficiaires de ces apparitions. Ben oui, pensez à Sainte Bernadette de Lourdes. Pensez à plusieurs des voyants comme ça qui sont tout à fait normaux, qui nous racontent leur... On n'est pas obligé de toute façon de croire à ces apparitions, et c'est pas des dogmes. Même s'ils sont confirmés par le pape et par les évêques, ce ne sont pas des dogmes. Mais tout semble vraiment authentique. Pensez à Medjugorje aussi. Pourtant, c'est bien discuté. Mais ça semble bien vrai, les voyants ont été analysés, même par des communistes. Ils sont très équilibrés. Or, dans la vie d'Abraham, pour revenir à Abraham, le réaliste le plus ordinaire, puis l'irruption divine, se remplace, ça alterne, avec, si on peut dire, un naturel qui incite à les accepter, tout ensemble. On les accepte d'autant plus que le fait divers, puis le miracle, dans la Bible, sont rapportés sur le même ton de simplicité tranquille. C'est donc un livre extraordinaire, la Bible. C'est un livre qui ne met absolument rien de ce qui peut faire la grandeur de ces héros, mais qui ne cache rien non plus de ce qui peut troubler leur image, comme on vient de le voir tout à l'heure, de ce triste épisode. Et c'est ainsi qu'Abraham nous semble un peu timoré lorsqu'il s'abrite derrière sa parenté avec Sarah. On l'a vu tout à l'heure en Égypte, hein, pour l'abandonner tout d'abord à Pharaon, qui est bientôt puni là, de sa convoitise. Puis il abandonne aussi au roi Abimélec, vous n'avez pas raconté ça, qui est tenté de la même façon, qui est aussitôt frappé de stérilité avec tout son peuple. C'est ce qui est raconté. Alors les deux fois, le patriarche Abraham retire d'importantes compensations matérielles du tort que l'on n'a pas eu le temps de lui causer. Hein? Étrange, étrange, on lui cause aucun tort, mais on lui donne beaucoup de cadeaux. Alors de même, il paraît manquer de caractère lorsqu'après avoir obéi à sa femme Sarah, qu'il l'avait envoyé faire à sa servante égyptienne Agar, l'enfant qu'elle ne pouvait lui donner, connaissez cet épisode, hein? Sarah peut pas avoir d'enfant, alors elle dit à son mari, couche avec notre servante Agar. Alors, donc c'est un autre épisode assez étrange, hein? Mais c'est pas les mœurs d'aujourd'hui. Alors, Abraham subit apparemment sans se plaindre même les insolences de sa servante qui est devenue sa maîtresse. Et puis, d'autre part, il la laisse, elle, se faire accabler de mauvais traitements par la légitime épouse Sarah. Alors, ils sont pas tellement gentils les uns pour les autres, hein? Parce que Sarah, la femme légitime, est exaspérée à un moment donné, au point que, ambitieuse, puis très pathétique, la servante Agar prend la fuite. Puis, elle revient pour être, cette fois, à la demande de Sarah, refoulée au désert avec son fils Ismaël. Refoulée par qui? Par Abraham lui-même, qui résiste à tout. Mais il résiste pas à son épouse Sarah, qui a tout un caractère. Alors la servante Agar est mystérieusement sauvée de l'ensevelissement des sables du désert. Elle va finir par regagner l'Égypte indemne. Elle va être titulaire d'une bénédiction, d'une sorte de bénédiction qui va faire de son fils Ismaël l'ancêtre intrépide des Arabes. Parler aux musulmans arabes, ils se réclament d'Ismaël et d'Abraham. Là encore, il n'y a pas de commentaire de la Bible. Ce sont les musulmans arabes, surtout, qui insistent sur cela. Bon, les faiblesses humaines, ça change rien au projet de Dieu. On a vu ces faiblesses, les faiblesses humaines d'Abraham. Mais ça change rien au projet de Dieu. Dieu est miséricordieux. Dieu aime, il nous aime tel que nous sommes, il aime Abraham tel qu'il est. Et tandis qu'Abraham vit comme il peut, lui, mais Dieu agit comme il veut. Bien oui. C'est comme ça qu'il peut nous prendre, nous, des pécheurs, pour faire toutes sortes de travaux de prédication, de communication d'évangile. Et on se dit, comment, je suis si indigne, Seigneur, comment, pourquoi me choisis-tu? Et Abraham est choisi comme ça, et les grâces continuent de pleuvoir sur lui. Et c'est dans une vision nocturne, avant qu'il ne renvoie de façon bien sinistre sa servante Agar, mais c'est dans une vision nocturne, la conclusion d'une alliance perpétuelle avec la descendance légale d'Abraham, qui, dit Dieu, sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et en attendant cette sorte d'explosion démographique et qui sera principalement d'ordre spirituel, hein, car nous sommes héritiers et descendants d'Abraham, nous chrétiens, eh bien, une terre est promise. Oui, une terre est promise. La terre d'Israël et la prise de possession de cette terre, ne sera pas sans délai, cette terre promise. Ce ne sera pas sans problème, on le voit encore aujourd'hui. Hein. Le signe de cette alliance, ce sera la circoncision. Abraham, qui obéit instantanément, soumet aussi toute sa maison, déjà fort peuplée, à cette forme plus ou moins chirurgicale de confirmation. Hein. Il est à noter que la maison d'Abraham était faite de gens d'origine très diverse. Ils étaient tous appelés à entrer dans l'alliance avec lui. Puis ensuite, il y a la belle sainte, fameuse, du chêne de Mambré, donc à Hébron, en pays de Canaan. Hébron dont il est question ces jours-ci. Abraham se repose devant sa tente, lorsqu'il aperçoit soudain trois visiteurs inattendus, dont la Bible parle tantôt au pluriel, tantôt au singulier. Oui, tantôt au pluriel, tantôt au singulier, c'est très important. Et qui sont trois hommes, ou des anges, ou deux anges et Dieu lui-même, c'est très complexe. Et Abraham les accueille, tous les trois, avec un empressement marqué. Il leur sert, sous le chêne de Mambré, un repas auquel il assiste debout. Et celui là, des trois autres, dans lequel semblent se fondre les deux autres, là, lui annonce que l'année suivante, à pareille date, sa femme lui aura donné un fils, Sarah. Ce sera Isaac qui va naître. Et derrière la porte de la tente, bien Sarah entend la prédiction, puis elle sourit en demeurant cachée. Elle se dit quoi, voyons, à mon âge, je goûterai encore du mariage et Abraham est si vieux. Alors celui des autres qui avait parlé dit alors à Abraham, pourquoi ta femme a-t-elle ri en elle-même en pensant à son âge? Est-il bien impossible à Dieu? Est-ce qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu? Alors, prise de crainte, Sarah proteste. Elle dit, je n'ai pas ri. Et on lui dit, si, tu as ri. Alors, l'enfant va venir à l'heure fixée. Et ce sera Isaac, dont le nom est associé en hébreu à l'idée de rire, justement. Et il fait la joie de ses parents. Et puisqu'en effet, rien ne lui est impossible, alors pourquoi Dieu n'a-t-il pas guéri Sarah de sa stérilité quand elle était encore jeune? À cette question, évidemment qu'une réponse, hein. Il fallait bien établir que la naissance d'Isaac était miraculeuse et que cet enfant était né de la volonté de Dieu lui-même. Mais nous sommes tous nés de la volonté de Dieu. Dieu avait donc outrepassé dans ce cas-ci tous les décrets de la nature et c'est ce qu'on appelle un miracle. D'ailleurs, je vous en raconterai des vrais, des grands miracles récents, des miracles du XXe siècle avec toutes les preuves à l'appui. Je ferai ça le mois prochain. Et voilà donc avec cette naissance d'Isaac, l'un des nombreux cas où il est impossible de séparer l'histoire humaine depuis l'histoire divine qui la traverse. Il la modifie quelquefois sous nos yeux, hein, Dieu modifie l'histoire. Il en est un autre, qui celui-là n'inspire pas la joie des naissances inespérées, mais une sorte d'effroi mêlé de révolte. C'est l'épisode du sacrifice d'Isaac. Abraham reçoit du ciel l'ordre d'immoler son fils au Seigneur, et le patriarche Abraham, qui a si intelligemment tenté de sauver les sodomites épouvantables, il plaide pas sa propre cause, et sans un mot, qui ressemble à une plainte ou à une objection, il va tout organiser pour le sacrifice sur le mont Moria, ainsi que Dieu le lui a prescrit, et c'est au moment où Abraham a déjà le couteau levé sur son enfant, qu'un ange arrête son bras, et que Dieu couronne son obéissance d'un surcroît de bénédiction. Comment on peut interpréter cet événement extraordinaire qui a servi à Rembrandt pour faire un de ses plus beaux tableaux? Beaucoup d'exégètes et de pères de l'Église ont glosé sur ce moment tragique dans la Bible où on voit un père qui va sacrifier son propre fils. Ne vous scandalisez pas, il ne faut pas s'énerver devant un fait comme ça. Ça se déroule, quoi, il y a près de 4000 ans. Il faut se mettre dans le temps et l'espace. Donc, on peut voir, si on veut, dans l'attitude d'Abraham, un exemple de foi, comme je viens de vous le dire. Il est certainement insurpassable. On peut voir aussi dans l'intervention de Dieu par son ange une manière implicite de condamner les sacrifices humains. C'est ça qui est important. Oui, Dieu consacre par cet événement le rejet qu'il fait des sacrifices humains, puis il fera plus tard le rejet des sacrifices des bêtes. Il va dire plus tard, ce n'est pas des sacrifices que je veux, c'est quoi? C'est la conversion du cœur. La conversion du cœur. C'est ça que Dieu veut. Alors on voit donc là-dedans que Dieu ne veut pas le sacrifice de son fils, Isaac. C'était très largement répandu dans ce temps-là, on offrait son fils aîné. Pensez aux Aztèques dont je vous ai déjà parlé, qui sacrifiaient comme ça des jeunes gens par milliers et milliers au dieu soleil, en arrachant le cœur de la poitrine de ces jeunes gens, des jeunes Aztèques ou des membres des autres tribus. Des carnages épouvantables, c'est effrayant. Abraham a compris. Évidemment que les pères de l'Église ont établi aussi un parallèle entre le mont Moria puis le Golgotha. Bon, si on veut. Ils ont aussi pensé que dans cette visite mystérieuse là, du chêne de Mambré, il y avait là une sorte d'apparition furtive de la Sainte Trinité, puisqu'il est question au pluriel puis au singulier de ces trois personnages. Et quand on relit bien le texte, si je me souviens bien, au chapitre 10 de la Genèse, ça vaut la peine. D'ailleurs, la belle icône de Roubleff, hein, des trois anges qui sont assis autour de cette table ronde, vous connaissez, cette icône de la Trinité que l'on voit partout, elle relate ce fait. Il y a là, donc, peut-être, une sorte d'apparition furtive de la Trinité. Moi, j'aime bien cette interprétation-là. Oh, c'est pas nécessaire de la prendre au sérieux, mais elle est très belle quand même. Nous avons vu aussi les pères de l'Église dans le sacrifice d'Isaac, une sorte d'annonce ou de parabole prophétique de celui du Christ. Et j'aime bien le fait que l'ange rejette le sacrifice du Fils. Et ainsi Dieu n'a pas voulu ainsi le sacrifice de son Fils. Dieu pleure quand le Christ meurt. Dieu notre Père pleure avec nous. Dieu pleure devant la méchanceté des hommes. Devant la méchanceté des hommes qui tuent les prophètes. Devant la méchanceté des hommes qui tuent ceux qui leur annoncent la parole de Dieu. Devant la méchanceté des hommes. La méchanceté des hommes. Dieu pleure. Le sacrifice du Christ est un sacrifice d'amour. C'est une offrande amoureuse de ce Dieu tout pouvoir, tout puissant, qui accepte de mourir. Aucun ange ne s'est interposé à la dernière seconde entre Jésus et les sacrificateurs, qui n'obéissent qu'à la raison d'État ou au pouvoir impérial comme à celui de la synagogue. André Frossard a une interprétation très, très étrange et éblouissante. Je vous la lis, telle qu'elle. Le sacrifice d'Isaac, c'est celui du Christ vu du côté du Père, qui aura peut-être cherché, en bouleversant nos sentiments, à nous faire comprendre ce que la passion de son fils lui avait coûté. Ainsi sommes-nous conduits à nous demander de temps en temps devant les tempêtes, les errances et les étranges conjonctions du ciel et de la terre dans cette existence visitée par l'infini, jusqu'à quel point Abraham n'est pas une image terrestre de Dieu lui-même, et qu'il nous pardonne si nous allons trop loin, comme la forme déléguée d'une sorte d'incarnation du Père. Que c'est bien dit. Très beau. Or Sarah, pour revenir à Sarah, elle est morte à 135 ans, dit la Bible. Bon, je vous ai expliqué tout à l'heure que les années n'étaient pas comptées comme aujourd'hui. Abraham l'ensevelit dans la grotte de Macpéla. Macpéla, dans ce beau livre, ces deux volumes, l'histoire d'Israël de Ricciotti. On trouve à la page 143 du premier tome une photo d'Hébron. Puis il y a le Haram el Khalil, c'est le site de la grotte de Macpéla. Bien oui, c'est à Hébron qu'ils sont enterrés les patriarches. Et Sarah est enterrée là. Et Abraham aussi, oui, à Hébron, où se passent des événements terribles ces jours-ci. Alors Abraham l'ensevelit dans la grotte de Macpéla. Il a vécu encore 40 ans avant d'être rassasié de jour, comme le rapporte le livre de la Genèse. Il a été proche de Dieu, sans jamais s'éloigner des hommes. Après Abraham, le peuple juif a traversé 4000 ans d'histoire. Il se mêlera à presque tous les peuples de la terre, sans finalement s'y confondre. Étrange. Aujourd'hui, le peuple juif est revenu dans ce pays de Canaan, où tout a commencé, et où tout, semble-t-il, où tout finira un jour. C'est le peuple choisi pour nous instruire de Dieu. Mais sans blesser le peuple juif, je dois dire qu'il lui arrive trop souvent d'oublier sa mission. Mais est-ce qu'on peut vraiment le lui reprocher au peuple juif? Nous aussi, nous oublions notre mission de chrétien. Si nous n'avions pas oublié notre mission de chrétien, le Québec n'en serait pas rendu là, ni l'Occident. De toute façon, nous ne saurions rien sans le peuple juif. C'est lui qui nous a donné Jésus, le plus illustre des Juifs. En tout cas, la descendance d'Abraham est bien innombrable. Puisque les trois grandes religions monothéistes sont issues de lui, le juif, le chrétien et le musulman. Oui, plus trois, nous reconnaissons en lui notre ancêtre commun. Il nous reste à nous, juifs, chrétiens et musulmans, nous apercevoir que nous sommes des frères. Il nous reste à apprendre du plus célèbre de tous les juifs, que le pardon et l'amour sont les conditions du bonheur de l'humanité. Pardonner, exercer la justice, c'est-à-dire être juste, quoi, et aimer, aimer, aimer. Si ces peuples savaient que la vengeance est une horreur. J'étais en Italie, quand les islamistes algériens ont tué 7 trappistes. Un livre vient de paraître, 7 vies pour Dieu et l'Algérie, chez Bayard Édition Centurion, distribué, je crois, par Novalis. Eh bien, quand j'étais en Italie, les servites de Marie qui me recevaient n'ont eu aucune réaction contraire, je vous l'ai déjà dit, aucun esprit de vengeance. Ils n'ont eu que d'un esprit de pardon à l'égard de ces islamistes. Et c'est la même chose quand Mgr Claverie, évêque d'Oran, a été assassiné. La même chose. Aucun élan de vengeance. Je termine en disant que le nom d'Abraham revient plus d'une fois sur les lèvres de notre Seigneur Jésus. Un jour, il raconte l'histoire du riche et du pauvre Lazare. C'est dans Luc au chapitre 16. Le pauvre mourut, il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham, à la meilleure place, tout contre Abraham, tandis que le riche, dans le séjour des morts, est en proie au tourment. Il est nommé aussi au Benedictus, comme au Magnificat, je vous l'ai dit. au premier canon de la messe. Abraham est un héros de la vie spirituelle par sa foi et son obéissance. Il symbolise le chrétien étranger sur la terre qui va où? Vers le ciel, vers la patrie céleste. Mais cette patrie est déjà commencée sur terre quand on est en démarche pour devenir des saints. Oui, nous sommes appelés à nous dépasser sans cesse comme lui.